Bonjour, merci d'être au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Une émission aujourd'hui pour prendre le temps de l'analyse et de la réflexion à quelques jours du 5 décembre. On parle du mur du 5 décembre, de bras de fer, de jeudi noir. Plus qu'une date dans le calendrier, tout se passe comme si ce rendez-vous était surdéterminé, surinvesti de symboles avant même d'avoir eu lieu. Vous le savez, aujourd'hui le gouvernement est réuni pour un séminaire consacré aux retraites. Mais au-delà de cette réforme, quels sont les grands enjeux du 5 décembre, du 6, du 7, du 8 et des jours qui suivront? État des lieux de l'opinion, questions de méthode et de stratégie aujourd'hui dans Questions politiques. Et avec nous jusqu'à 13h pour en parler, deux invités, deux grands spécialistes de la vie politique française. Le maître de l'opinion, Jérôme Jaffray, directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Et Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le centre de recherche de politique de Sciences Po, pour intervenir l'appli mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag Question Poll.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Jérôme Jaffray et Martial Foucault, bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, l'équipe de Questions Politiques. À mes côtés, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Yaël Gauze de France Inter. Bonjour Yaël.
Bonjour tout le monde, bonjour Ali.
Messieurs, commençons par un état des lieux de l'opinion pour essayer de mesurer à la fois l'humeur de la population et pour comprendre aussi ce paradoxe. Paradoxe peut-être, mais vous allez nous le dire. Sondage Odoxa il y a quelques jours. 66% des Français sont pour la mobilisation, 66% des Français sont également pour la suppression des régimes spéciaux et une réforme profonde des retraites. Qu'est-ce qui est si paradoxal là-dedans ou comment l'expliquer, Jérôme Jaffray ?
De toute façon, l'opinion est faite d'un certain nombre de paradoxes, c'est ce qui fait son charme, et pour nous, analystes, nous n'épuisons jamais notre travail en la matière.
Mais là, plus qu'un paradoxe, alors, ça ressemble à une contradiction.
66% des Français considèrent que c'est justifié. D'abord, ça fait partie de notre système politico-social. À partir du moment où vous n'avez pas d'acteurs susceptibles de créer un compromis, de l'organiser, d'être reconnu comme tel, quand le pouvoir fait une réforme sur un sujet très difficile, il faut se faire entendre. Se faire entendre, c'est donc manifester, lutter, pour obtenir au moins des concessions, et pour certains, l'abandon du projet. Voilà, tout est là. Les régimes spéciaux ne sont pas populaires. Ils sont pas du tout populaires, les régimes spéciaux. L'un des arguments forts en faveur de la réforme, c'est le sentiment de l'égalité. Un régime universel qui s'applique à tous, et dans lequel c'était la phrase forte de Macron durant sa campagne, qui a joué en sa faveur. Un euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous. Voilà. Oui. Ça paraît d'une parfaite simplicité. Et c'est bien. Mais la question derrière, c'est est-ce que ceux qui vont lutter pour la défense des régimes spéciaux, SNCF, RATP en tête, seront considérés comme le fer de lance de la bataille? Ils représentent les autres, tous les autres, ceux qui s'inquiètent d'une réforme des retraites, parce que c'est toujours très très difficile une réforme des retraites. Hein, les Français sont terriblement attentifs, et c'est bien naturel d'ailleurs, à ce qu'ils auront à la retraite, comme à quel âge ils la prendront, avec quel montant. Ou bien est-ce que, c'est ce qu'espère le pouvoir, les Français considéreront que ceux qui défendent des régimes spéciaux, c'est quelque chose du vieux monde, du XXe siècle, et que c'est bien normal d'évoluer et de transformer les régimes spéciaux en les faisant entrer dans le régime universel. Tout dépend aussi en combien de temps.
On va en parler justement. Martial Foucault, paradoxe ou contradiction de voir 66% des Français pour la mobilisation, 66% des Français contre les régimes spéciaux et un régime universel ?
Non, je ne crois pas que ce soit véritablement une contradiction. Je crois que c'est une suite logique de l'évolution aujourd'hui du dialogue social. C'est-à-dire que sur des enjeux comme ceux de la retraite, on pourrait même rajouter une contradiction à celle que vous venez d'indiquer. Presque les deux tiers, 62% dans l'enquête Elab pour les Échos, indiquaient ne pas être prêt à se mobiliser par ailleurs. Donc, on peut être à la fois contre une réforme, mais on voit que depuis un an, les formes de mobilisation, pas seulement sur des réformes, mais aussi vis-à-vis de l'exécutif, aujourd'hui, s'entremêle profondément. Donc, au fond, on peut voir cette réforme comme des intérêts catégoriels à une catégorie de salariés. Et l'enjeu pour les syndicats, aujourd'hui, c'est d'essayer de rattraper le train manqué depuis un an. Et donc, faire de cette réforme des retraites une capacité de mobilisation au-delà de cet intérêt catégoriel, c'est véritablement l'enjeu du 5 décembre.
On va y venir justement à cette question. Françoise Fressoz.
Est-ce que vous avez des détails par appartenance politique dans les chiffres que vous citez? Est-ce qu'on a des clivages politiques très déterminés par parti politique?
Jérôme Jaffray.
Alors, écoutez, c'est assez simple hein, en la matière. La gauche, les sympathisants des partis de gauche et les sympathisants du Rassemblement national sont unis pour critiquer la réforme, la contester et approuver massivement, ou très largement en tout cas, la mobilisation sociale. Ça n'est pas indifférent. Les sympathisants socialistes, donc, basculent vers la contestation et vers la gauche de la gauche davantage. Alors que on aurait pu penser qu'ils resteraient plus proches d'une position CFDT et d'une position de parti de gouvernement. Mais le Parti Socialiste a ce charme que quand il est dans l'opposition, il oublie la culture de gouvernement et évolue vers la gauche. Et en tout cas, ELV aussi, les sympathisants ELV, eux, sont divisés assez largement, alors que le mouvement ELV, les écologistes, Europe Écologie Les Verts, appellent, eux, à participer aux manifestations et à entrer dans la lutte. Et puis, vous avez les sympathisants de La République En Marche et les sympathisants de la droite, LR, qui forment, au fond, un bloc. Alors, les sympathisants LR sont pas enthousiastes par la réforme parce qu'ils auraient préféré la simplicité. C'est-à-dire, on décale d'un ou deux ans l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire le système dit paramétrique comme on l'a tant pratiqué, mais au moins, on comprend. On comprend plus facilement que ce que veut faire le gouvernement. Mais en revanche, les sympathisants LR, comme les sympathisants de La République En Marche, sont distants et critiques à l'égard de la mobilisation sociale. Voilà, je dirais, les deux Frances telles qu'elles s'organisent, confirmant la droitisation de La République En Marche qu'on a observée aux européennes.
Yael Gauze.
Si on essaie de faire le parallèle avec 95, est-ce que l'élément nouveau côté politique par rapport à ce mouvement social, c'est pas l'entrée en scène du Rassemblement National, de Marine Le Pen, à l'époque c'était Jean-Marie Le Pen, dans la contestation, dans le soutien à la contestation, à l'époque de Bernard Thibault. Bernard Thibault se souvient que Jean-Marie Le Pen le traitait d'insurgé. C'était vraiment le FN était vraiment à l'écart, très à l'écart du mouvement, et là, il essaie de se greffer ou de surfer sur le mouvement.
Martial Foucault.
Oui, en 1995, le Front National, n'oublions pas, avait des positions économiques diamétralement opposées à celles aujourd'hui défendues par Marine Le Pen. C'était un Front National très en faveur du libre-échange, on se souvient de la proximité au moment des négociations des accords du GATT en 1994. Donc Jean-Marie Le Pen n'était absolument pas dans une posture à soutenir l'action syndicale. Pour lui, le syndicalisme était d'ailleurs, d'une certaine manière, l'horreur. Il fallait véritablement s'en éloigner parce que son électorat, composé, on va dire, principalement d'artisans, de commerçants, ne voyait pas d'un bon œil le syndicalisme. Là, aujourd'hui, ce que vous dites sur l'entrée du Front National, ça correspond en fait à ce que disait à l'instant Jérôme Jaffray, c'est-à-dire que sur ce mouvement, on voit bien qu'il y a, d'une certaine manière, le réveil d'un clivage qui ne cesse de se creuser depuis 2017, avec la difficulté pour la France Insoumise et le Rassemblement National de se mettre dans le moule d'un électorat, on va dire, de gauche, mais aussi, avant tout, un électorat anti-système. Et d'une certaine manière, on parlait de 1995 comme point de référence.
Oui.
Je crois que c'est
comparaison n'est pas raison.
Non seulement, pour deux raisons très simples. Premièrement, en 1995, il y avait une loi qui existait, donc il s'agissait de prendre position pour ou contre, ce qui permettait d'abroger ou pas la loi. Cette fois-ci, il n'y a pas de loi sur la table. Donc c'est beaucoup plus fuyant, beaucoup plus gazeux. Et puis la deuxième raison, elle est liée au fait que cette mobilisation par rapport à 1995, aujourd'hui, et le 5 décembre, montre que c'est pas seulement un rassemblement unitaire de l'ensemble des syndicats. On voit un certain nombre de salariés, y compris à la SNCF, à la RATP, qui souhaitent être mobilisés en dehors de leur appareil, de leur organisation syndicale. Donc ce qui rend finalement cette mobilisation peut-être beaucoup moins unitaire qu'elle ne l'était en 1995.
Jérôme Jaffray, comparaison n'est pas raison, 1995-2019.
C'est l'une des grandes questions de ce mois de décembre. Je remarque d'ailleurs que maintenant, ce sont les mois de décembre qui sont décisifs dans la politique française. Décembre 95, décembre 2018 avec les Gilets jaunes, décembre 2019 devant nous. Autrefois, c'était le mois de mai.
Le mai, oui, c'est le printemps.
Mai 58, mai 68, mai 80, on a changé de saison. C'est un point intéressant. L'autre point, pour ajouter à ce que vient de dire Martial Foucault, c'est que nous avons deux points d'incertitude nouveaux sur le mouvement de décembre 2019 tel qu'il s'annonce. Le premier élément d'incertitude, les violences. Nous héritons de décembre 2018 et des Gilets jaunes. C'est-à-dire, il y a eu des affrontements violents en France l'année dernière et pendant plus de 2-3 mois. Est-ce que le mouvement restera un mouvement structuré syndicalement dans des grandes manifestations et des grèves classiques, ou est-ce qu'il y aura une jonction avec des mécanismes de violence qui transformeront assez vite en affrontement le mouvement de décembre 2019 ? Deuxième interrogation, absolument majeure me semble-t-il aussi, et qui nous différencie de 1995, il n'y a pas eu de violence, c'est la politisation ou pas. Est-ce que nous aurons, dans les manifestations, et dès la manifestation du 5 décembre, des manifestations au cri de Macron démission ? C'est un des énormes points d'interrogation que nous avons en 1995.
Autrement dit, est-ce que ce sera une mobilisation anti-Macron autant qu'une mobilisation contre la réforme des retraites ?
Alors, la dimension anti-gouvernementale, vous avez raison, elle existe, mais je pense, moi, au slogan et à la force d'une manifestation dans lequel le mot d'ordre qui rassemble, parce que Martial Foucault l'a dit, pour le moment, il n'y a pas de projet de loi. Il n'y a pas un document sur lequel vous pouvez dire abroger, abandonner.
Non, mais il y a l'esprit d'une loi dont on ne connaît pas encore les contours.
Oui, il y a l'esprit d'une loi, mais en plus, ce qui est très intéressant, il y a eu un sondage IFOP pour le journal du dimanche publié, qui indique que les Français ne sont pas hostiles à l'idée d'une réforme qui unifie les différents régimes de retraite. Ils ne sont pas accrochés. Les études du Cercle de l'Épargne montrent que le système de retraite actuel n'est considéré ni comme juste ni comme efficace.
Trois quarts veulent une refondation, d'après l'IFOP de ce matin. Oui.
Voilà, c'est très intéressant là-dessus. Mais si vous avez tout de suite un mot d'ordre qui est Macron démission, en 95, nous n'avons pas eu des Chirac démission, c'est-à-dire le projet Juppé, le projet du Premier ministre, pas le projet du Président. Ça change la donne, violence et politisation. Et alors, pour le coup, nous ne serions pas du tout en 95, mais dans autre chose, qui d'ailleurs ouvrirait, me semble-t-il, un espace pour le pouvoir pour réagir.
Alors justement, est-ce que Nathalie vous jugez Sacher, par rapport à ce facteur personnel que vous ne connaissez pas finalement, c'est-à-dire ce Macron démission éventuel, est-ce que vous considérez que la méthode du gouvernement a été correcte, en gros, est-ce qu'ils s'y sont bien pris, ou alors on a plutôt l'impression qu'ils se sont pris successivement les pieds dans le tapis ?
Martial Foucault.
C'est difficile de répondre avec certitude à cette question parce que je dirais que la même question posée il y a les 18 mois, et on a eu ce cas avec les mobilisations contre le projet de réforme de la SNCF, et finalement on a vu la très grande difficulté à l'époque des mobilisations.
Ça ne touchait que la SNCF, tandis que là, les retraites, ça touche tout le monde.
Mais pour le moment, je dirais la manière dont le débat est cadré, c'est autour d'une réforme des retraites des régimes spéciaux. Et on voit au fil des semaines, et notamment, je crois que le rôle tenu par Jean-Paul Delevoye est fondamental pour voir d'une certaine manière une désaccordance. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté un exécutif, Emmanuel Macron, considérer qu'il faut prendre les éléments les plus intéressants, sans savoir précisément lesquels, dans le rapport Delevoye. Et puis aujourd'hui, on rentre finalement dans l'agenda législatif. Il faut prendre des mesures très concrètes. Et pour moi, la seule manière de considérer que ça sera davantage une mobilisation anti-Macron plutôt que anti-retraite, je mets de côté retraite de catégorie particulière, c'est qu'il y a 18 mois, Emmanuel Macron n'aurait pas subi, d'une certaine manière, la même désapprobation, la même impopularité de l'ensemble du corps social. Or, aujourd'hui, on est dans un autre moment. Ce n'est pas seulement être pour ou contre une réforme, c'est être pour ou contre qui porte cette réforme. Et on est encore dans la queue de comète du mouvement Gilets jaunes.
Je précise ma question auprès de Jérôme Jaffray. Est-ce qu'en dénonçant des privilégiés dans un premier temps, en laissant ce flou dans un second temps et depuis un certain temps, est-ce que finalement on n'est pas totalement anxiogène et en débouchant justement sur le sondage dont on parlait au début de l'émission ?
Jérôme Jaffray, d'ailleurs, vous avez qualifié la stratégie d'Edouard Philippe de repli élastique. Expliquez-nous ça.
Sur ces questions.
Le repli élastique.
La dimension anxiogène, elle est incontestable. Elle est considérable, mais elle s'ajoute à un flou absolument gigantesque. Et les Français, pour les retraites, ils ont besoin de clarté, de visibilité et de garantie minimale. La clarté, ils ne l'ont pas. La visibilité, il s'agirait de savoir en gros à quel âge je peux partir et avec quel montant. Impossible de le savoir précisément. Et la garantie, vous faites un système par points. Mais comment il va évoluer ce système par points, à la baisse, à la hausse ? Est-ce que c'est pas le régime idéal pour réguler économiquement totalement le système de retraite et essorer progressivement les futurs retraités ? Ça, c'est le point inquiétant. Alors, le repli élastique consiste à dire que le talent du gouvernement, s'il réussisse au mois de décembre, s'il arrive à éviter les violences et à contenir le degré de politisation tout en finissant par aboutir. D'abord, c'est le calibrage qu'Édouard Philippe a fait du calendrier.
Oui.
Nous avons un premier round qui va du 4 au 8, du 5 au 8, jeudi au dimanche, où grève partout, tout le monde s'y attend, tout le monde s'organise. Delevoye doit faire un certain nombre de, présenter un certain nombre de conclusions le 9 et le 10, donc derrière le premier round, avec concertation avec les organisations syndicales, et Édouard Philippe annonce que juste avant Noël, il rendra ses arbitrages. Évidemment, ça n'est pas choisi au hasard comme date, car juste avant Noël, on imagine qu'ayant rendu des arbitrages, les gens vont pas se remettre en grève le 25, le 26, le 27, et début janvier, c'est très difficile de revenir là-dessus. Et l'objectif, me semble-t-il, si je cherche à comprendre ce que peut voir le gouvernement, le repli élastique consiste, chez les militaires, à avancer le maximum sur le terrain et ensuite se replier si nécessaire sur des positions préparées à l'avance. La position préparée à l'avance, c'est de faire adopter un projet de loi, l'arbitrage Édouard Philippe possible, pour fixant la règle du régime par points, annonçant que les nouveaux entrants sur le marché du travail y passeront tous très vite, et qu'on fait 4 ou 5 ans de discussion pour les transitions, pour tous les régimes existants, sachant qu'on conserve les droits acquis jusque-là. Voilà qui pourrait être le repli élastique, c'est-à-dire que le régime ne rentre pas tout de suite en vigueur, il n'abandonne pas tout de suite les régimes spéciaux, mais il se donne un peu de temps tout en ayant marqué par une loi qu'on passe à un nouveau système.
Alors, question de stratégie toujours, pour répondre à la question de Nathalie Saint-Cric, il fallait lire aussi la chronique de Françoise Fressoz cette semaine dans Le Monde.
Comme toutes les
semaines. Trois mots, évidemment, pour qualifier la stratégie d'Emmanuel Macron, Françoise. Même pas peur. Même pas peur, expliquez-nous ça.
Il y a eu un débat au gouvernement sur cette réforme des retraites qui est en fait une réforme systémique. Et le débat qui s'est posé, c'est est-ce qu'à mi-quinquennat, on peut oser faire une réforme qui, au fond, a des implications sur des années et des années, et qui, est-ce que le gouvernement est assez armé politiquement pour la mener ? La moitié du gouvernement était très très réticent en disant « Oulala, on se lance dans des choses très compliquées, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, il va falloir 10-15 ans. » Et Emmanuel Macron a tranché en disant « On y va ». Pourquoi a-t-il dit ça ? Parce qu'il a dit, au fond, c'est co-substantiel à ce que je suis, la transformation, je veux être l'homme qui va transformer le pays. Et je pense que le pari d'Emmanuel Macron, c'est au fond le match dans lequel il est avec la droite modérée depuis le début de son quinquennat, c'est-à-dire par rapport à Nicolas Sarkozy, qui avait dit « je suis le grand réformateur », il veut se positionner comme l'homme qui aura réformé beaucoup plus que la droite modérée. Et s'il réussit ce pari, au fond, il peut arrimer à lui cette partie-là et se dire « j'ai réussi la reconstruction ».
Ça veut dire pas question de reculer.
Pas question de reculer, et une partie de la droite va me soutenir. Peut-être j'aurai aussi l'appui des retraités qui sont actuellement hostiles au mouvement. Donc c'est le grand pari. Mais on voit que ça tiraille aussi au sein de La République En Marche, parce qu'il y a une aile gauche depuis le début, qui au fond n'a pas envie de se déporter aussi à droite. Et il dit, au fond, le macronisme, c'est quand même et de gauche et de droite. Et c'est ça qui aujourd'hui est en train de se jouer et qui est extrêmement intéressant. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que le pari est jouable ou pas ?
Martial Foucault.
En termes de calendrier, c'est vrai qu'il y a une véritable audace et un pari hautement risqué que d'engager une telle réforme à mi-mandat. On sait que dans toutes les démocraties libérales, en général, ces réformes qui peuvent susciter des réactions hostiles sont engagées dès les premiers mois. Et là, on peut s'interroger. Pourquoi finalement Emmanuel Macron n'a pas saisi le moment des 12 premiers mois où était engagée la réforme du Code du Travail, la réforme SNCF pour pouvoir...
Vous avez une explication ?
L'explication, c'est que je crois qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent un travail de diagnostic suffisamment complet et surtout.
Enfin, c'était dans son programme, le Conseil d'orientation des retraites travaille sur le sujet depuis des années de manière extrêmement technique et pointilleuse.
Il ne serait pas le premier président à avoir des éléments dans un programme dont il découvre au moment de prendre le pouvoir que ce n'est pas aussi simple. Et en particulier sur la question, cette question des retraites, parce que quand même, c'est pas un sujet nouveau en France. Quel président, quel premier ministre ne s'est pas cassé les dents sur une ambition de réforme pour accoucher finalement, souvent quand même, d'une petite souris en matière de réforme. Donc aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a, probablement l'envie d'apparaître comme étant l'architecte de cette société nouvelle, aurait dit un certain Chaban-Delmas il y a quelques décennies. Mais une société nouvelle, pour Emmanuel Macron, fondée pas seulement, la méthode c'est la réforme, mais fondée sur, on l'observe, chaque jour, c'est à la fois au titre de l'efficacité et apporter des solutions. Donc cette réforme de la des retraites proposée par Emmanuel Macron, c'est l'idée d'apporter des solutions. Et on voit très très mal, en fait, de quel type de solution il s'agit. Parce qu'il y a une vraie confusion aujourd'hui entre, encore une fois, le rapport de Levoix, ce que disent les organisations syndicales, et ce que peut même dire le corps en termes d'équilibre budgétaire à long terme. Donc finalement, s'il s'agit d'avoir une politique de petits pas, qui consiste à dire, on va laisser le temps, et puis, dans un monde idéal, regardons cela après 2022, on n'aura pas mis en péril cette idée de continuer à siphonner l'aile droite de l'espace politique français. On nous accordera le mérite d'avoir commencé à donner des coups de griffe à cette réforme de la retraite, mais surtout, n'allons pas dans un chemin où on va s'aliéner totalement ce qui reste de la gauche de La République En Marche.
Jérôme Jaffray.
Juste un mot pour compléter. D'abord, le fait que ce soit une réforme au départ portée par la CFDT limite l'accusation de droitisation complète sur le sujet. Dans le bilan, si Macron et Édouard Philippe réussissent à faire voter un projet de loi fixant la règle du régime par points et avec entrée dans le système tout de suite pour ceux qui débarquent sur le marché du travail, d'abord ils auront réussi, comme le disait Martial Foucault, à installer du coup le principe, ce qui serait quelque chose. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour passer ce mois de décembre, le pouvoir peut, je dirais, ce sera un calcul un peu cynique, mais en politique, on ne peut pas totalement exclure le cynisme, me semble-t-il. C'est-à-dire que les violences possibles et la politisation peuvent servir le pouvoir. Si vous avez, les Français n'ont pas du tout envie de recommencer décembre 2018. Si donc le spectacle des manifestations, et pour les syndicats, ce serait aussi un grave problème. Si les manifestations sont troublées par une violence active entre les forces de l'ordre et une partie de manifestants, c'est un problème général pour la société française. Et la politisation, avec des Macron démission qui surgissent des rangs des manifestants massivement, ça déplaît aussi beaucoup à une large partie des Français qui n'aiment pas qu'on mélange la politique, la durée du mandat et le social. Donc, il y a toute une partie de judo, si je puis dire, qui a lieu dans tout ce mois de décembre.
Yael Gauze.
Oui, on parlait d'Edouard Philippe, surtout d'Emmanuel Macron, mais en réalité, le pilote actuel, celui qui a été désigné et qui va au charbon et qui fait des réunions sur réunions depuis une semaine, c'est Edouard Philippe, qui doit endosser, incarner maintenant cette réforme, ce projet de loi à venir. Il a beaucoup observé ce qu'a fait Alain Juppé, son ancien mentor, en politique, 95, comment il s'est comporté entre novembre et décembre 95. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous, une différence? Moi, ce qui m'a frappé, c'est mercredi dernier, après le Conseil des ministres, quand il embarque, dès le début de sa prise de parole, tous les syndicats dits réformistes et qui pourraient apporter, justement, l'aide dont le gouvernement a besoin pour réussir à ne pas tomber dans une partie de judo perdante. CFTC, UNSA, CFDT, il les cite tous, un à un, et il leur dit, je reprends ça de chez vous, je reprends cette mesure, la pénibilité, les garanties, nanana. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous avez vu que Édouard Philippe n'est pas Juppé?
Jérôme Jaffray.
Assurément. D'abord, la leçon de 95, elle est sévère. Alors, on n'est pas vraiment en 95. Martial Foucault a déjà souligné un certain nombre d'éléments. J'en ajoute d'autres. En 95, ce qui est marquant, c'est la maladresse de Juppé et la faiblesse de Chirac. Maladresse de Juppé, c'est la fameuse histoire du Juppéton, lancée par les guignols de l'info. Juppé avait dit, si le total des manifestants dépasse le million, les 2 millions, je verrai ce que je fais. Du coup, on a compté et on est arrivé au chiffre fatidique voulu par Juppé. Et la faiblesse de Chirac, c'est que depuis 86 et l'affaire Malik Oussekine, Chirac a considéré qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue, il fallait retirer les projets. Il n'a cessé de le faire pendant la durée de son mandat de président de la République. Donc Chirac probablement a passé sa vie à dire à Juppé, on laisse tomber, c'est pas possible, ça ne passe pas, etc. Là, le pouvoir n'est pas divisé. Et on peut espérer pour le pouvoir qu'Édouard Philippe soit moins maladroit qu'Alain Juppé. Et là, Yael Sous, vous avez raison, c'est qu'Édouard Philippe revient quand même en première ligne, ce qui repermet à Macron de se replacer un tout petit peu en position d'arbitre. Alors que jusque-là, c'était Macron, et uniquement Macron, qui était sur la réforme. Là, le fait qu'Édouard Philippe soit dans cette situation et effectivement commence à parler un peu, à organiser les syndicats réformistes, comme vous l'avez dit, pour porter avec lui une réforme acceptable par les Français. Parce que, vous comprendre que l'opinion, elle est 66% de justifiée. Hein, la réforme, avez-vous dit, Ali, tout à l'heure. C'est vrai, mais l'opinion, elle est divisée, en fait.
C'est pas un bloc.
C'est pas un bloc. Les 66, c'est pas un bloc. Il y a ceux qui veulent l'abandon de la réforme. C'est ceux qui ont les régimes spéciaux. RATP, SNCF, ils veulent l'abandon. Ils vont faire grève, au moins jusqu'à Noël, semble-t-il, dans cette perspective. Il y a ceux qui veulent qu'on sauvegarde un certain nombre de droits dans le système. Il y a eu cette semaine dans le Figaro un article sur les mères de familles nombreuses qui allaient voir leur retraite diminuer de 25% si on y prenait garde. Il y a le débat sur les pensions de réversion. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut... Et puis, il y a ceux qui ont besoin simplement d'être rassurés. C'est-à-dire que avec le nouveau système de retraite, est-ce que ma retraite va être amputée ou pas ? Donc, le pouvoir, normalement, va travailler sur ces différents segments.
Il est midi et demi. Jérôme Jaffray, directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, et Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, sont les invités de Questions politiques.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
J'aimerais avoir votre avis autour de la table. Qu'est-ce qui compte ? C'est le 5 décembre, tout le monde semble focalisé sur cette date. Ou est-ce que c'est le 6 ? Ou est-ce que c'est le 9 ? Françoise ?
Moi je dirais plutôt que c'est le 9. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ceux qui ont la capacité de bloquer le pays, c'est RATP, SNCF. Ils ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève, soit illimités, soit reconductibles. Et on a l'impression qu'au fond, il y a une dramaturgie qui s'est jouée autour de cette journée du 5 décembre, où il y aura des manifestations de blocage, et je ne les vois pas le lendemain dire « ça y est, on arrête, c'est fini ». À mon avis, ce qui est très important, la date, c'est le lundi d'après. C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement a entendu la colère ? Est-ce qu'il y a des moyens d'avoir rétabli le dialogue au sein de la RATP et de la SNCF ? Je pense que c'est ça les deux éléments le plus important. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un vrai blocage, notamment à Paris, si jamais la RATP continue, ou est-ce qu'il y a possibilité de dialogue ? Donc, je pense que c'est à ce moment-là que on saura s'il y a encore possibilité de dialogue.
Nathalie Saint-Cricq.
Je pense que la bataille de l'opinion, c'est à partir du lundi. En gros, est-ce que le gouvernement a été suffisamment clair, comme le disait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on y comprend quelque chose, conciliant, c'est-à-dire y compris avec sur les pensions de réversion, c'est-à-dire ne pas injuste, et qu'à partir de là, les Français disent, on peut y aller, on peut suivre, on ne va pas continuer. Si ça continue à être un peu flou, et vous connaissez la fameuse formule sur quand
de
c'est
Martine
flou,
Aubry.
C'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, si on a l'impression qu'il y a une division, et si on a l'impression surtout que le gouvernement est totalement divisé, là, à mon avis, à partir du lundi, ça peut devenir effectivement extrêmement compliqué.
Vous êtes d'accord, Martial Foucault ?
Oui, non, c'est juste. Et peut-être qu'on oublie un certain nombre de secteurs qui pourraient modifier ce calendrier entre le 5 et le 9 décembre. C'est à la fois ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, et on voit
avec une adhésion totale, là, pour
adhésion totale, et aussi une forme de, je dirais, de politisation en dehors des structures syndicales. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle sur ces mouvements. C'est vrai également au sein de l'université, pour l'ensemble des étudiants. Là aussi, il peut y avoir une agrégation de cette mobilisation. Maintenant, la bataille de l'opinion, oui, effectivement, elle se gagne au regard de ce qui sera finalement la forme de la mobilisation, la forme de la grève, mais aussi une vraie cohésion au sein du gouvernement. Or, on a pu lire qu'Emmanuel Macron avait quelques doutes sur un certain nombre de membres du gouvernement autour de la réforme, à la fois dans son calendrier et dans son contenu. Donc, pour moi, ça, ce sont des éléments importants. Et tout à l'heure, Jérôme Jaffray faisait un parallèle en indiquant, enfin, le contraire d'un parallèle, en indiquant que Édouard Philippe n'est pas Alain Juppé. Je regardais quel était l'état de l'opinion en 1995. Il y a quand même un point de ressemblance assez intéressant. À l'époque, Jacques Chirac et Alain Juppé avaient exactement le même niveau de popularité au sein de l'opinion. On était entre 28 et 30% en décembre 1995.
28 à 30% d'opinion favorable ?
En novembre et décembre 1995, à partir du moment où la loi a été abrogée, chacun, Premier ministre et Président, ont gagné 6 à 8 points. Donc peut-être qu'il y a des leçons à retenir du passé.
Yael Gauze.
Deux remarques rapides par rapport à ce qui va se jouer, c'est est-ce qu'on reste sur un mouvement uniquement sur les retraites ou est-ce qu'on embrasse des causes beaucoup plus larges ? Assurance chômage réformée, défense des services publics au sens large, c'est ça aussi la clé de la suite. C'est peut-être qu'on va pas rester simplement sur la question pure et simple des retraites, enfin pure et compliquée d'ailleurs, et qu'on va aller vers d'autres agrégations, c'est ça la question, la clé. Et l'autre clé, moi je dirais pas que c'est le 9-10 décembre, c'est 24-25 décembre. Parce que là, on a
eu au Père Noël.
La théorie de la dinde, vous la connaissez en politique.
Ah non ?
C'est le moment où ça se cristallise. C'est là où les gens ont vu l'annonce d'un programme ou le projet de loi et en discutent autour de la table.
À condition qu'on arrive à se réunir en famille et ça dépend de la
suite au nom de la grève. Et à condition qu'il y ait enfin quelque chose de clair aussi sur quoi discuter en famille de manière intergénérationnelle. Non, c'est très important. La cristallisation de Noël, c'est pour ça d'ailleurs que le calendrier est celui-là. C'est pour ça qu'il y a encore du mou entre le 10 décembre et les vacances de Noël.
Est-ce qu'il y a aussi la possibilité de faire grève par procuration? Est-ce que ça existe, Jérôme Jaffray? C'est une expression, je crois, qu'on doit au sociologue Edgar Morin, justement, juste après les grandes grèves de 1995. Autrement dit, ceux qui ne font pas grève.
Mon ami Stéphane Rosès, qui pense être le père de cette formule.
Alors, il y a un conflit de paternité, mais en l'occurrence, est-ce que les salariés du privé ne descendant pas dans la rue pourraient malgré tout soutenir ou accompagner le mouvement parce que ils feraient grève par procuration?
C'est une des interrogations, bien sûr, mais ce que je veux dire d'abord, vous me posez la question, je reprends du jour décisif. Hein. N'oublions pas le samedi 7, dont nous n'avons pas parlé. Le samedi, c'est le jour des violences pour les gilets jaunes l'année dernière. Le samedi, parce que les gilets jaunes, ils travaillent en semaine, et le jeudi n'est pas leur jour idéal. Est-ce que le samedi, nous avons un jour de violence, 7 décembre, qui également pèserait de façon considérable sur l'interprétation et la suite du mouvement? Pour moi, si vous voulez, tout le problème, c'est la difficulté de la coagulation. On voit bien qu'il y a des colères, des mécontentements extrêmement forts, et beaucoup de catégories en souffrance dans le pays. Et ce qui me frappe, c'est que les catégories en souffrance sont en général, et même massivement, les catégories en contact avec le public. C'est-à-dire, donc, ça va des policiers, les pompiers, tout le système de santé, et l'école.
Les enseignants, on disait.
Donc nous avons des catégories en souffrance qui demandent qu'on s'occupe d'elles et qu'on fasse des choses, parce que c'est de plus en plus difficile. Le service public, qui est aussi le service du public, est devenu quelque chose de plus en plus difficile en la matière. Mais pour qu'un mouvement social ait de la force, il faut la coagulation. Et la coagulation, c'est un mot d'ordre commun. Toute l'habileté du plan du gouvernement, ça consiste pour le moment à ne pas avoir déposé définitivement un texte de loi, un projet de loi.
C'est de l'habileté.
Donc vous trouvez que c'est habile?
Dans un calcul politique, ça peut l'être.
Oui, mais ça plonge l'ensemble de la population dans l'incertitude.
Alors, c'est ce que Nathalie Saint-Cricq disait justement tout à l'heure sur le côté anxiogène des choses. Mais là, je reviens au calibrage par le Premier ministre de rendre des arbitrages la veille de Noël pour permettre à la dinde d'être mangée de meilleur appétit et avec davantage de sourire.
Elle y sera sensible,
voilà,
la dinde.
Voilà, le proverbe classique, c'est que les dindes voient avec joie arriver Noël. Ce qui est évidemment une erreur. La coagulation suppose un mot d'ordre commun pour réussir un mouvement. En 95, abrogation du projet de loi Juppé, abandonnez votre projet. Là, il n'y a que les défenseurs des régimes spéciaux qui sont sur cette ligne. Et c'est là où la grève par procuration...
Vous ne voyez pas de slogan possible.
Le mot d'ordre commun. Ou alors c'est Macron démission. Et là, vous basculez dans la politisation qui rendrait service au pouvoir. Parce que beaucoup de Français seraient choqués qu'on passe du social au politique pour en plus interrompre les mandats des gouvernants. Ça, c'est quelque chose qui les rendrait ultra minoritaires. Et si vous n'avez que les défenseurs des régimes spéciaux, vous avez souligné le sondage en début d'émission. Cette fois-ci, les Français considèrent que l'idée d'aller vers un régime universel d'égalité, à condition de rassurer un minimum les Français, effectivement, ça irait dans le bon sens.
Juste une question, est-ce que vous considérez que c'est un mouvement qui est rationnel, ou est-ce que vous considérez qu'il y a une espèce de fureur diffuse dans le pays qui peut s'agréger ou non? Et par ailleurs, est-ce que le comportement d'Emmanuel Macron, dont on nous avait dit qu'il allait changer, le fameux acte 2, j'écoute, je négocie, je suis différent, est-ce qu'il y a quelque chose chez lui qui insupporte les Français qui ne serait pas rationnel?
Et je note d'ailleurs, Martial Foucault, que dans un livre que vous avez coécrit et qui a été publié au Seuil récemment, Les origine du populisme, vous avez consacré de nombreuses pages à l'analyse de ces passions politiques qui traversent le corps social, la méfiance, la peur, la colère et leur traduction politique, ce qui vous qualifie pour répondre à Nathalie Saint-Cricq. Entre autres.
La question des colères est probablement la plus intéressante sur les ressorts psychologiques qui pourraient conduire à qualifier ce mouvement de rationnel, ou peut-être la réponse du gouvernement de rationnel ou d'irrationnel. Moi, je vois deux éléments importants. C'est-à-dire que, autour de cette notion de coagulation, forcément, les colères ne sont pas les mêmes. On a des colères, je dirais pour dire les choses très simplement, on a des colères contre ce gouvernement, contre ce président, et celles-ci, elles se sont renforcées depuis.
Sont-elles spécifiques par rapport à ce qu'on peut observer avant, ce qu'on a pu observer? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier?
Oui, ce qui est particulier, c'est cette très grande difficulté pour Emmanuel Macron à avoir convaincu qu'il avait entendu, qu'il avait appris des 12 derniers mois. Donc ça n'a, de mon point de vue, ça n'a pas changé. Dans les enquêtes d'opinion qu'on peut mener, on voit toujours un niveau de colère extrêmement élevé et qui...
Contre lui ?
Oui, contre lui. C'est-à-dire une colère contre Emmanuel Macron, d'une part, on personnifie cette colère, mais aussi contre sa politique. Et ces deux colères, finalement, on peut les retrouver agrégées autour des forces politiques de la France insoumise et également du Rassemblement national. Donc ça n'a pas changé. En revanche, ce qui peut paraître plutôt paradoxal sur cette question de l'usage ou de l'instrumentalisation des colères, c'est une grande confusion qui a lieu quand on compare dans d'autres pays les formes de mobilisation que l'on voit partout dans le monde. C'est de considérer que les personnes se mobilisent pour finalement répondre, attendre des réponses plutôt à des peurs. Des peurs où les gouvernements ne seraient pas en mesure d'apporter des réponses en termes de protection. Protection d'un statut social, protection vis-à-vis des retraites. Mmh. Or, on se trompe résolument. C'est pas une question de peur, ce qui, j'allais dire, active, ce qui réveille l'ensemble de ces colères. Non, c'est une opposition extrêmement politique. Ce n'est pas la peur qui a expliqué le Brexit ou le vote Donald Trump ou qui explique la montée de l'AFD en Allemagne ou du Rassemblement National. Non, la peur, si vous voulez, la peur, c'est qu'on est dans un mécanisme psychologique où on est prêt à réviser des croyances. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement certain de ce pourquoi on nous a expliqué que les réformes qui allaient à venir allaient améliorer ou pas notre quotidien. On n'est plus dans ce registre. Là, on est dans une registre de colère. C'est-à-dire, tout s'est radicalisé, tout s'est polarisé. Et donc, la colère, c'est investir des ressources, et notamment la grève, mais aussi le vote, pour finalement enclencher un mouvement de changement, changement profond. Et je crois que sur ce mouvement des retraites, effectivement, les manifestants en colère ne visent pas simplement à modifier une position individuelle. Il s'agit tout simplement de tenter d'affaiblir et pourquoi pas de renverser le pouvoir en place. Donc il y a une très très forte politisation derrière la colère.
Jérôme Jaffray, est-ce qu'il faut voir ce qui va se passer à partir du 5 décembre comme un conflit de légitimité? La légitimité sortie des urnes, pour le dire rapidement, celle dont peut se revendiquer le président de la République et sa majorité. Une autre légitimité, celle de la rue, celle de ceux qui vont faire nombre pour essayer de faire reculer l'exécutif.
C'est une des grandes questions maintenant sous la Ve République qui donne des signes d'épuisement très nets. C'est-à-dire que le régime politique ultra-majoritaire de la Ve République aboutit à ce qu'un président qui en réalité fait 24% des voix au premier tour de scrutin agrège au second tour pour battre l'extrême droite et aux législatives qui sont maintenant organisées dans la foulée dispose d'une majorité qui le soutient. Nous sommes sur un pouvoir qui en réalité est minoritaire dès le départ. Très minoritaire dès le départ. Et ça, je dirais, ça devient la faille de la Ve République, absolument problématique dans ce système et sur lequel il va falloir réellement que les politiques réfléchissent parce que sinon, c'est la présidentielle elle-même qui finira par donner des résultats complètement en désaccord avec le pays au point de pouvoir favoriser des extrêmes. Un mot sur acte 1, acte 2 quand même,
oui.
Si vous permettez. Parce que d'abord, les Français ont extraordinairement du mal à voir la différence qu'il peut y avoir entre un acte 2 et un acte 1, pour toutes les raisons que vient de souligner Martial Foucault, effectivement. Je résumerai, moi, en ayant réfléchi sur un peu, en cherchant. Alors, l'acte 1, Macron, c'est « je décide, je fonce ». L'acte 2, c'est « je ne fonce plus, j'écoute et je décide ». voilà comment les Français peuvent voir les choses. Et ensuite, en termes
C'est pour ça qu'ils l'ont élu, ceux qui ont voté pour lui, non?
Oui, c'est pas pour ça. Ceux qui ont voté, mais dont je soulignais qu'ils
n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir faire autant de réformes.
Il y a à peu près 30% du pays, hein, Martial Foucault donnait les chiffres, 30% du pays soutient Macron, 30% du pays est en colère et prêt à participer aux luttes activement, c'est ce qu'indiquent les sondages. Donc vous avez 40% de l'opinion publique qui n'est pas ni dans cette première catégorie ni dans cette seconde. C'est là-dessus que les politiques travaillent en fait, hein, ils s'intéressent à ça. Ce qui reste quand même de compréhension de Macron, c'est le système est trop généreux. Le système
trop généreux,
le pognon de dingue du système social. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut raboter notre système qui est trop généreux. Alors c'est l'assurance chômage.
Ça reste
chômage.
La conviction du président de la République.
Ça reste la vision fondamentale et la compréhension des Français. Et donc pour les retraites, c'est l'idée aussi qu'on va raboter le système est trop généreux. Donc forcément, les Français ne voient pas avec emballement les mesures qui sont prises dès lors que le système est considéré comme trop généreux. Parce que individuellement, pour chaque Français, il n'est pas si généreux que cela.
Françoise Fressoz, puis Elgoz.
Ce que vous dites sur l'évolution de la Ve République, au fond qu'un président République est minoritaire étant élu, est-ce que au fond, ça n'implique pas ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une succession d'épreuves de force? Et est-ce que c'est, est-ce qu'il faut s'y faire, est-ce qu'il faut s'y résoudre en disant que finalement, si les réformes passent, à partir du moment où il y a une majorité au Parlement, qu'importe que l'opinion soit mécontente, on passe les réformes au forceps. Est-ce qu'il faut s'habituer à ça et est-ce qu'il y a des parades? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce régime?
Martial Foucault.
C'est peut-être là où il peut y avoir une cohérence dans les réformes institutionnelles proposées par Emmanuel Macron. Quand il envisage, bon, on attend de voir exactement ce qu'il en retournera, mais quand il envisage d'introduire une dose de proportionnelle pour le scrutin législatif, ça veut dire qu'il souhaite modifier la culture politique du pays. Passer d'une culture, effectivement, du fait majoritaire, où on a l'onction de l'élection présidentielle et ensuite on gouverne sans tenir compte de ce qui a conduit un président à avoir 24% au premier tour et plus de 60% au second tour, à une nouvelle culture, j'ai une culture politique de compromis, une culture politique de coalition gouvernementale, et aujourd'hui
on voit vraiment pas.
On en est très très loin. Alors, on en est très très loin dans les institutions, mais dans la pratique, quand Emmanuel Macron cherche à coaliser une partie de la droite, ça veut bien dire que finalement, il cherche à avoir une opinion publique beaucoup plus large que celle qu'il a élue. Et aujourd'hui, on voit bien que sur la réforme des retraites, mais aussi d'autres réformes, l'ambition d'Emmanuel Macron, c'est non seulement de se projeter au-delà des prochaines échéances municipales, ça finalement, ça ne compte que très très peu dans l'actuelle réforme des retraites, mais se projeter dès 2022 pour précisément essayer de faire beaucoup mieux que 24%, et ce qui lui permettra ensuite, s'il réforme du scrutin législatif avec cette dose de proportionnelle est validée, d'avoir une coalition de gouvernement, j'allais dire, plus large et peut-être avec un peu plus de cohésion sur l'esprit de la réforme.
Donc ce qui compte, c'est pas décembre 2019, c'est mai 2022. Et la 5e République retombera sur ses pattes, comme le disait Jérôme Jaffray, Yaël Gauz.
Mais l'angoisse du temps présent pour Emmanuel Macron, c'est de se retrouver seul face à la rue, ou seul face aux oppositions au sens large, d'être sans interlocuteur crédible. Et c'est toute l'angoisse de Macron, c'est celle-là, c'est d'avoir des syndicats forts. Souvent on dit Emmanuel Macron, il est anti-syndicat. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'il n'a pas trouvé, lui qui est quelque part dans sa construction, un enfant de la CFDT, parce que autour de lui, il y a beaucoup de CFDTistes, Philippe Grandjean est à l'Élysée. Son angoisse, c'est de pas avoir d'interlocuteur suffisamment fort et légitime pour pouvoir réformer le pays. Et quand on voit ce qu'il fait sur la Convention climat, la Convention citoyenne pour le climat, c'est une prise de conscience qu'aujourd'hui, effectivement, cette démocratie à la 5e République, régime semi-présidentiel, ne fonctionne plus suffisamment, qu'il faut trouver d'autres manières de faire, en associant cette fois-ci les citoyens. Alors, on est évidemment très loin d'une réforme de la 5e telle qu'on l'imagine, mais si sur la Convention climat, là on se projette, on change de sujet, mais on aurait pu imaginer une convention sur les retraites aussi. Hein,
oui, mais 150 citoyens tirés au sort, je ne suis pas sûr que ça aurait donné des résultats très convaincants pour emporter avec soi l'ensemble de l'opinion.
Aujourd'hui, pour sortir des blocages, il est obligé de trouver d'autres parades.
Nathalie Saint-Cricq.
Un certain nombre de chercheurs disent qu'il y a une réémergence de la lutte des classes. C'est-à-dire, en gros, c'est quelque chose dont on s'est dit que c'était du passé, que ça n'existait
Martial
plus.
Martial Foucault,
et
le
que
premier.
Globalement, l'enrichissement généralisé avait supprimé cette notion, enfin supprimé, ou du moins qu'elle était atténuée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, à la fois avec les gilets jaunes, ou à la fois avec ce qui se passe aujourd'hui, ben finalement, c'est une nouvelle version de cette fameuse lutte de notre ami Carlos.
Martial Foucault, je rappelle, ou j'indique en tout cas, que vous avez dit qu'il en était fini de la société de classe et qu'on vivait au contraire aujourd'hui dans une société de désocialisation où il n'y a plus que
et
les
Jérôme
individus isolés
par exemple,
les uns
a introduit
des autres.
Cette notion, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
Martial Foucault.
Non, effectivement, et d'ailleurs sur le sujet des retraites, c'est très intéressant. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il cherche avant tout à éviter un retour en arrière qui consisterait à passer d'une période dite de dialogue social à une période de démocratie sociale telle qu'elle s'est instituée au cours du 19e siècle, qui était faite simplement de lutte syndicale et de lutte de classe. Et donc, je dirais la hantise pour Emmanuel Macron dans l'évolution de ce mouvement, c'est de se dire on revient de la démocratie sociale. Et la démocratie sociale pour Emmanuel Macron, c'est précisément ce qu'il ne souhaite pas. Parce que ça veut dire une politique des compromis. Et gouverner et réformer avec à sa vitesse, à son rythme et avec un certain nombre de partenaires politiques, je mets de côté les partenaires syndicaux, c'est prendre le risque d'abandonner le principe du dialogue social. Et le
mais
dialogue
répondez social, à Nathalie Saint-Cricq, oui, la lutte des classes, mais ça revient.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de la lutte des classes qu'on a déjà vu dans les gilets jaunes? On s'est dit que c'est pas les mêmes classes, c'est peut-être les inclus, les exclus, c'est les mondialisés, j'en sais rien, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à ça.
Oui, ça y ressemble. On n'est pas sur une, encore une fois, on n'est pas sur une lutte de classe qui consisterait à opposer un monde ouvrier à un monde de bourgeois tel que ça s'est produit au cours du 19e siècle. Mais on a une nouvelle forme, effectivement. Je dirais une lutte des classes entre les possédants et les non-possédants. Et aujourd'hui,
c'est pas radicalement différent.
Mais disons que ce qui est radicalement différent, c'est que les non-possédants ne sont pas nécessairement politisés avec les mêmes organisations qu'il y a un siècle.
Mais avant, on les appelait les prolétaires. C'est même la définition du prolétaire.
Les prolétaires étaient effectivement ceux qui allaient rejoindre les rangs d'organisations syndicales. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe énormément dans ce moment 2019-2020, c'est de voir que si lutte des classes il y a, elle se développe en dehors des institutions classiques.
Oui, ou des syndicats, mais ça peut rester le même.
Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle sur l'évolution d'un mouvement. Tout peut, d'un jour à l'autre, se transformer, prendre une orientation qui n'est pas celle qui permettrait... Parce que le principe des luttes des classes, c'est à un moment donné d'arriver à trouver un compromis. Et ça, je crois qu'on est sorti.
Enfin, le principe, c'est surtout la révolution, en général, quand on parle de lutte des classes. Jérôme Jaffray, puis Françoise Fressoza.
Oui, quelques mots pour ajouter, préciser sur certains points. D'abord, c'est vrai que le clivage social en France a largement remplacé le clivage politique classique, le clivage gauche-droite. La déstructuration de 2017 et l'enthousiasme d'Emmanuel Macron pour ne pas chercher à faire coalition en 2017, car c'est un des problèmes de départ du quinquennat, ne pas s'associer avec d'autres forces politiques pour gouverner et diriger le pays, en créant son club de supporters, La République En Marche, son club de supporters fait pour venir le soutenir
et
faire voter ses lois. Oui, il y a le modem, vous avez raison.
Même si elle essaye de masquer son rire.
Ça ne bouleverse peut-être pas complètement la base de soutènement du macronisme, me semble-t-il. Lutte des classes, non, pas tout à fait, car nous sommes quand même dans l'individualisation, l'individualisme roi. Et le jeu des réseaux sociaux, qui change complètement la chose. Donc, comme le dit Martial, nous ne sommes plus dans des classes organisées, la classe ouvrière, etc. Nous sommes beaucoup plus dans un monde où, à la fois, le sentiment d'injustice qu'on peut éprouver et la mobilisation par les réseaux sociaux peut provoquer des flambées. Et ce qui est passionnant dans ce mois de décembre 2019, pour nous observateurs en tout cas, c'est la jonction éventuelle avec d'autres modes beaucoup plus traditionnels de lutte. Oui. Est-ce que ça se renforce, ça joue ensemble, ou ça s'exclut, voire ça finit par favoriser le pouvoir par une montée de violence ou de politisation qui ne correspond pas aux bases du combat social et syndical normal.
Françoise Fressoza.
Pour revenir aux retraites, pour l'après 5 décembre, il y a l'attitude fondamentale d'un syndicat qui est la CFDT. La CFDT, c'est à peu près le seul grand syndicat qui aujourd'hui soutient le système de retraite par points. Mais Laurent Berger met une condition. Il dit, moi je veux bien cette réforme systémique, je ne veux pas en revanche une mesure d'équilibre, c'est-à-dire allonger encore la durée de cotisation ou alors créer un âge pivot parce qu'il y aurait 10 milliards d'euros à trouver d'ici là. Or, Gérald Darmanin, ce matin dans le journal du dimanche, ministre du budget, dit évidemment qu'il faut remettre le système à l'équilibre. Est-ce que cette querelle-là peut avoir une importance très forte dans la sortie de crise? Autrement dit, si jamais Emmanuel Macron perd le soutien de la CFDT, est-ce que la réforme est vraiment en danger?
Jérôme Jaffray.
En tout cas, vous avez raison, c'est-à-dire qu'ajouter... Il ne faut pas que la barque soit trop chargée quand vous faites une réforme. Ça, c'est le béaba que Juppé avait complètement méconnu en 1995, puisqu'il mettait tout à la fois...
Il y avait tout.
Et je relisais, et même au début, il proposait de supprimer l'abattement pour l'impôt sur le revenu, sur les salaires. Alors là, il l'a quand même assez vite abandonné. Mais c'est-à-dire qu'il fallait, pour se préparer à l'euro, les accords sur l'euro en 99, il fallait faire des réformes, absolument... Bon, Chirac n'avait pas dit le moindre mot dans sa campagne de 95. Il avait au contraire expliqué la feuille de paix n'est pas l'ennemi de l'emploi. C'était sa grande devise. Donc évidemment, les Français interloqués. Donc, il faut pas trop charger la barque. Il est évident, me semble-t-il, que dans les arbitrages que doit rendre Édouard Philippe, vous renvoyez à plus tard et à une concertation générale la question de l'âge. Si vous mettez l'âge, car les Français, ils étaient plusieurs millions à défiler dans la rue dans les réformes précédentes sur le relèvement de l'âge légal. Si vous le mettez en même temps que le nouveau système, vous faites perdre le côté qui est acceptable de la réforme, l'égalité pour tous, pour dire simplement, on va vous essorer.
Et donc Laurent Berger a raison.
Sur ce point, il a raison incontestablement, même si le fait que, par exemple, que la CFDT cheminot se soit prononcée pour la clause grand-père...
Enfin, ça, il n'y est pour rien, l'engager, il ne maîtrise pas.
Il n'est pas tout à fait pour rien, parce que la CFDT, en principe, c'est une organisation, et le fait que Laurent Berger ne se soit jamais clairement prononcé pour le fait qu'il ne doit pas y avoir de clause grand-père dans les services publics... dans
Sur cette émission, la semaine dernière, il a dit...
Il l'a dit clairement. Dans Question politique, il l'a dit très clairement.
Dont acte.
Il est bientôt l'heure de rendre l'antenne. Il nous reste quelques minutes. Essayons de regarder de l'autre côté du mur du 5 décembre. Je fais la courte échelle à Nathalie Saint-Cric, justement, pour essayer d'imaginer... L'histoire n'est jamais écrite d'avance, mais...
Voilà, l'histoire n'est jamais écrite d'avance, et on dit, il y a un certain nombre de thèses en ce moment qui disent que finalement, Marine Le Pen, 2022, pourquoi pas, que le fameux mur peut être franchi, que le cordon sanitaire peut sauter. Est-ce que vous pensez qu'on joue à se faire peur, ou est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Et je vous prends pas pour des voyantes, hein, ni l'un ni l'autre, mais est-ce que, de ce que vous savez de l'opinion...
Je peux donner un élément, parce qu'effectivement, il ne faut pas jouer à se faire peur, et je pense qu'il faut, il faut peut-être passer très très vite l'ensemble des enquêtes d'opinion publique ou sondages qui mettraient en scène des intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2022.
Il ne faut pas les regarder, ces enquêtes-là?
Non, je crois qu'aujourd'hui, écoutez, une enquête, pour qu'elle ait un intérêt d'analyse, il faut que les candidats qui sont proposés soient réellement les candidats.
D'accord, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose?
C'est important, parce que finalement, on peut effectivement considérer que voilà, Marine Le Pen donnait à 28%, 29% au premier tour dans certaines enquêtes. Tout peut se décomposer en quelques jours, en quelques semaines.
Donc, c'est passé avant.
Maintenant, qu'est-ce qui a évolué depuis 2017 au regard de ces mouvements? Moi, je suis quand même très frappé d'observer que ni le mouvement Gilets jaunes et probablement ni les mouvements de contestation autour de la réforme de la retraite vont pleinement profiter et à la France insoumise et au Rassemblement national. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, j'ai aucun élément qui permet de dire ils vont capitaliser sur cette contestation. En revanche, pas sur la réforme, mais la contestation autour d'Emmanuel Macron, ça me semble être plutôt un signal très très fort qu'il faut regarder attentivement, mais c'est pas tant la progression de ces partis anti-système que la dilution de la force et du pouvoir d'Emmanuel Macron, en tout cas de sa capacité à obtenir des intentions de vote plus élevées en 2022. Donc je crois qu'on regarde les choses attentivement sur qu'est-ce qui aujourd'hui fait progresser le Front National et la France Insoumise. De mon point de vue, c'est certainement pas ces mouvements de mobilisation, de contestation observés depuis 12 mois.
Jérôme Jaffray.
Ce qui est extrêmement dangereux, c'est la mise en scène par Emmanuel Macron lui-même d'un face-à-face avec Marine Le Pen pour 2022.
Dangereux ?
C'est extrêmement dangereux. Emmanuel Macron a dit, quand il recevait les parlementaires, enfin au ministère des Relations avec le Parlement, notre principal opposant, c'est le Front National, il ne parlait pas du Rassemblement National, et nous devons maintenir cette opposition. Voilà.
Pour lui. Parce que c'est la garantie d'être élu pour lui. Ben,
voilà, c'est ça qui rend détestable le calcul. C'est mon assurance vie. Hein, voilà. Alors que les Français, vous imaginez, si Macron est très impopulaire en 2022, et ils n'ont pas envie non plus d'élire Marine Le Pen, le sentiment de l'impasse politique qu'on construit pour 2022 est presque intolérable pour les Français, et dangereux d'une certaine façon, parce que si vous aboutissez à la situation où on ne veut plus de Macron, vous finirez par faire élire Marine Le Pen, et j'ajoute enfin qu'une droitisation excessive de Macron le priverait des voix de gauche dans un second tour de scrutin face à Marine Le Pen. Quand vous faites une interview à Valeurs Actuelles sur les thèmes de l'immigration, où vous plonger sur toutes ces thématiques sans corriger la façon dont la droite extrême ou l'extrême droite voit ces problèmes, vous n'encouragez pas les électeurs de gauche à se dire un second tour d'élection Macron-Le Pen, j'hésite pas, je sais pour qui je vais voter. Vous avez au contraire aujourd'hui beaucoup d'électeurs de gauche qui se disent je ne le referai pas comme j'ai fait en 2017. Donc c'est une tactique extrêmement dangereuse.
Il nous reste moins d'une minute. Yael
Juste
Gauze,
un focus
de la
rapide
concision.
Sur Marine Le Pen, pas 2022, mais Marine Le Pen d'aujourd'hui, qui s'allie à la droite dissidente à 7 dans l'Hérault et qui en même temps soutient la grève du 5 décembre. Est-ce qu'il n'y a pas les limites de Marine Le Pen en ce moment, par les deux bouts de l'omelette?
D'un mot, Marcel Foucault.
Alors, d'un mot, les élections municipales dont vous parlez pour 7, à mon avis, ne traduisent pas nécessairement une stratégie nationale. On est véritablement dans une situation où on est en train de municipaliser des élections municipales, alors que pendant près de 40 ans, on a cherché à les nationaliser.
Sur
le 5 décembre, il me semble que là, on ne voit pas le début d'une forme de coagulation.
Il reste 30 secondes.
Oui, Jérôme Jaffray, vous dites c'est très dangereux François de faire le duel Macron-Le Pen, mais forcément, de constater que depuis 2 ans et demi, aucun opposant n'a réussi à s'immiscer dans ce match.
Alors c'est vrai, et du coup c'est le calcul de ses opposants aujourd'hui. C'est de se dire, si le pays voit venir le Macron contre Le Pen, il cherchera quelqu'un d'autre. Et donc c'est l'espoir d'un certain nombre de personnalités, alors que les partis sont si faibles,
le mot espoir,
ils espèrent.
Enfin, un peu d'espoir. Merci messieurs, c'était passionnant. Jérôme Jaffray, Martial Foucault, bon dimanche à tous les deux. L'émission se termine, et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.